L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voilà donc pour cette nouvelle étape. Pour suivre Jésus sur les pas de l'évangile pour le couple. Alors nous allons passer une étape importante aujourd'hui. Nous allons passer un moment et cette émission avec Nicodème, qui va nous permettre d'ailleurs de prendre un peu du recul par rapport à toutes ces cette 8 émissions qui se sont passées depuis le début que nous sommes ensemble. On va finalement rassembler peut-être un peu tout ça avec l'évangile de Nicodème pour essayer d'aborder vraiment pour notre couple. Peut-on vraiment renaître de l'eau et de l'esprit? Peut-on naître à une vie nouvelle, à un niveau conjugal, à un niveau personnel? On sait que c'est le baptême, et c'est le ressourcement dans le baptême, mais est-ce qu'au niveau de la vie amoureuse, on peut renaître à une vie nouvelle? On peut réanimer la flamme qui nous habitait il y a, 3 mois, 3 ans, 30 ans, pas 300 ans, mais... Allez.
Tout de même pas. Nous allons prendre l'évangile dans Saint Jean au chapitre 3, qui parle de cette belle histoire de Nicodème. Donc Nicodème vient rencontrer Jésus et il lui dit « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit.
Eh bien, je crois que cette question de Nicodème, comment un homme peut-il naître étant vieux? On peut dire, allez, Alex et Maud, ils vont poser la question à Jésus. Comment un couple peut-il naître étant vieux? Et je pense que chacun de nous, chacun de nos couples, peut se poser la question, comment puis-je renaître étant vieux? Mais il y a des vieux d'ailleurs qui ont 3 mois, et il y a des jeunes qui ont 50 ans. Bon, donc ce n'est pas forcément une question d'âge, d'âge canonique, sur notre carte d'identité, sur notre livret de famille, c'est vraiment comment rafraîchir notre amour. Et Jésus, là, nous apporte des éléments très importants, mais qui concernent pas simplement d'ailleurs des couples, mais qui peuvent concerner aussi des jeunes qui se disent, ou des célibataires qui vont se marier ou qui désirent se marier. Comment, lorsque je vais me marier, quand nous allons vraiment faire alliance ensemble, comment pouvons-nous raviver constamment la jeunesse de notre amour, la jeunesse de notre mariage et de notre alliance?
Nicodème parle d'entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère. C'est dire que dans toute vie, il y a des moments où on a envie comme de retrouver une innocence première. On a envie de repartir à zéro. Et on a sur les bras tout un fatras d'événements dont certains, on aimerait bien ne pas avoir à les porter. Et on a l'impression d'être comme vieilli par les événements, vieilli par la vie, vieilli par des choix qu'on a faits, qu'on identifie comme étant pas toujours des bons choix ou comme étant des choix qui nous ont entraînés dans une situation qu'on ne souhaitait pas vivre. Et quelque part, il ne s'agit pas de faire un retour en arrière. Il ne s'agit pas de retourner là où nous étions avant, comme si on retournait une cassette pour recommencer. Non, ce que nous avons vécu, voilà, c'est derrière nous. Maintenant, pour demain, est-ce que je peux retrouver cette innocence? Est-ce que je peux retrouver ce désir de projet dans la beauté, dans la grandeur, dans la fraîcheur de ma jeunesse?
Jean-Paul II, quand il commente ces paroles de Nicodème, il aborde cette question du sacrement de mariage, de la sacramentalité du mariage chrétien. Il fait référence avec ces textes, mot un peu fort, mais ces textes fétiches sur lesquels nous avons commencé tout ce parcours à partir des paroles de Matthieu en 19, où finalement il commente tout est dit dans la Genèse. Tout est dit dans la Genèse. C'est là où elle a vraiment la vraie naissance du couple. Et que nous n'avons de cesse, en raison de notre péché, nous avons quitté cette bénédiction originelle, éternelle. Et nous n'avons de cesse que d'essayer de la retrouver. Donc quand Nicodème, effectivement, revient à cette question, comment un homme peut-il naître étant vieux ? Comment pouvons-nous retrouver cette bénédiction originelle ? Et nous n'avons de cesse qu'à cela, c'est inscrit dans nos gènes, c'est vraiment notre aspiration la plus profonde. Et donc cette question, qu'elle soit exprimée explicitement ou implicitement, nous n'avons de cesse les uns et les autres que de demander comment naître de nouveau, comment donner de la fraîcheur à notre vie conjugale, comment lui donner toute sa beauté, son intensité. Nous avons tous besoin d'une vie intense. On n'est pas fait pour une vie raplapla, pour une vie rangée sur notre petite vie, je dirais, de imager « ça me suffit ». Non, on n'est pas fait, les chrétiens ne sont pas faits pour des « ça me suffit ». Voilà, hein. C'est fait pour une vie intense. Et nous avons besoin d'intensité, et c'est normal, c'est notre aspiration profonde. On n'est pas fait pour quelque chose de mièvre. Voilà, c'est l'amour dont nous avons besoin, et après 25 ans de mariage, le désir est encore plus fort. Et encore plus fort chez ce Nicodème qui, effectivement, veut renaître, veut retrouver cette jeunesse.
Et Jésus lui répond en parlant de deux domaines de naissance, renaître de l'eau et de l'esprit. Alors, évidemment, pour un chrétien, quand on parle de l'eau, tout de suite, c'est évident, c'est l'eau du baptême. Et pourquoi l'eau du baptême ? Parce que c'est l'eau dans laquelle nous sommes plongés avec le Christ, pour ressusciter avec le Christ. Ce n'est pas une formule. Ça veut dire que dans le baptême, nous vivons ce passage par l'immersion totale dans la vie du Christ. Et avec lui, nous rejaillissons comme un homme nouveau. On dit bien, et c'est pour ça que les baptisés sont toujours habillés de blanc au lendemain de leur baptême. À la minute même où ils ont franchi l'eau du baptême, on les vêt de blanc. Parce que c'est cette lumière de la nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau, de foncièrement nouveau qui naît en nous lors du baptême. Et donc Jésus nous rappelle que cette naissance commence par l'eau du baptême, c'est-à-dire rentrer dans le mouvement du Christ qui a accepté de mourir pour ressusciter et pour nous libérer de ces entraves, de nos péchés, de nos limites, de nos incapacités. C'est pour nous donner une vie nouvelle, une énergie nouvelle à l'intérieur même de notre faiblesse.
Et c'est pour cela que ce qui est dit au travers de l'eau pour la personne, c'est lié au baptême, c'est tout le lien qui est fait par Jean-Paul II, qui ouvre vraiment toute une brèche en parlant du sacrement de mariage comme une grâce baptismale pour le couple. C'est une véritable renaissance. C'est une véritable renaissance. Et donc, même si jamais le sacrement de mariage, on l'a noué il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais peut-être qu'on le découvre aujourd'hui. Et donc, vraiment, c'est ça qui est important, c'est que le sacrement de mariage, c'est vraiment le renouvellement de notre beauté originelle. Souvenez-vous, nous avons lu ensemble la Genèse, et on a fait les premiers versets de la Genèse, explicite bien que l'image de Dieu qui est en l'homme, elle apparaît au niveau de la personne, elle apparaît également au niveau du couple. Et l'image de Dieu se révèle à la fois par la personne et par le couple qui s'aime. Il en va de même, donc au niveau du sacrement de mariage, qui finalement vient renouveler cette image de Dieu au sein du couple. Cette image de Dieu, toujours présente, bien entendu, mais voilée par le péché. Et cette libération, je veux dire, est-ce qu'on croit que Jésus, encore une fois, est notre libérateur, ou simplement il vient nous faire un petit enseignement comme un grand prophète et un grand sage ? À qui croyons-nous ? À qui croyons-nous ? C'est un libérateur, c'est un sauveur. Et donc il vient concrètement restaurer la beauté originelle. On ne fait pas une dissertation philosophico-religieuse et ecclésiale, nous professons une foi et une expérience que Jésus vient nous transformer. Et ça, nous en avons tous besoin. Croyants et incroyants, nous avons besoin d'être renouvelés dans cette grâce du Christ pour goûter cette vie nouvelle.
Alors justement, justement pour tous ceux qui peuvent nous écouter, ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se préparent au mariage ou qui vont peut-être assister à un mariage prochainement, il faut vraiment avoir cette vision fabuleuse que le sacrement de mariage, ce n'est pas simplement un passage à l'église où on va mettre un petit coup de goupillon sur un amour qu'on présente au Seigneur. Ça, c'est une infime partie de ce qui se passe. Il y a un mystère extraordinaire, c'est que dans le sacrement de mariage qui est donné à deux conjoints qui s'aiment, de fiancés, comme on dit, qui se préparent à être unis dans le sacrement de mariage, il y a ce salut qui est offert. C'est-à-dire que le Christ va s'engager dans le sacrement de mariage avec les conjoints en leur disant, chaque fois que la barque sera trop secouée par la tempête, je serai là, sur mon oreiller à dormir, réveillez-moi et je ferai pour votre couple, advenir le salut. Je vous sauverai et je vous donnerai la possibilité de vous aimer au-delà de vos incapacités.
Avec Maude, nous abordons aujourd'hui dans cette nouvelle émission pour l'Évangile pour le couple, nous abordons l'Évangile avec Nicodème, où Jésus l'invite à renaître et de l'eau et de l'esprit, et bien sûr on essaye de faire la transposition avec la vie conjugale. Et donc nous avons vu ce renouvellement, ce salut, où Jésus vient nous sauver par l'eau, par le sacrement du mariage. Et puis, il y a aussi ce baptême dans l'Esprit-Saint, cette vie dans l'Esprit-Saint, cet accueil de l'Esprit-Saint. La naissance ne peut pas être vécue simplement de l'eau. Cette renaissance, elle doit être vécue également dans l'Esprit-Saint. Sinon, le sacrement est comme inefficace, comme inopérant plutôt.
Voilà, le sacrement est toujours potentiellement, si je puis dire, efficace, mais comme dit Jean-Paul II, les fruits du sacrement dépendent des dispositions de ceux qui le reçoivent. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint va être la personne divine qui va nous permettre de vivifier ce sacrement. En d'autres termes, si le sacrement, ça se limite à une jolie photo qu'on pose dans notre salon, en regardant avec émotion ce jour où on a célébré notre mariage, le sacrement n'est pas vraiment vivant. Ça reste une étape, un moment où on a posé un acte fort, mais ce sacrement va avoir besoin de vivre au quotidien. C'est un peu comme si je disais, Bon, je le dis parce que je suis une femme, alors c'est encore plus facile. C'est pas parce qu'une fois pour toutes, Alex, tu m'as dit je t'aime, que j'ai pas envie d'entendre tous les jours que tu continues à m'aimer. Et nous sommes très sensibles, nous les femmes, à cette capacité qu'ont nos maris amoureux de nous redire sans cesse comme leur amour est fort et comme ils sont amoureux de nous.
Je te rassure, c'est réciproque. Hein. Vas-y, voilà. Continue.
Donc, si jamais nous avons besoin comme ça de revivifier notre amour entre nous, de la même façon, l'Esprit Saint va être la force agissante qui va vivifier notre sacrement et le rendre efficace. Donc, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? J'aurais dit plutôt qui est l'Esprit Saint? Une des trois personnes divines, nous le savons. Mais pour beaucoup, c'est un peu une espèce d'invertébré gazeux, un être qu'on ne sait pas trop bien saisir. Et dans ce texte Nicodème, d'ailleurs, Jésus en parle en disant « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va ». Et voilà que l'Esprit Saint, c'est justement cette force qui va nous entraîner, parfois dans des détours surprenants, des passages où on ne s'attendait pas du tout à aller, mais on va sentir en nous cette force nous habiter, cette énergie, si je puis dire, qui va nous pousser vers un amour plus grand, plus fort, une vie, une intimité avec Dieu qui soit plus intense.
Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, comme le feu transforme en lui tout ce qu'il touche, l'Esprit Saint transforme en vie divine tout ce qu'il touche. C'est vraiment cette transformation, c'est-à-dire que cette potentialité du salut en Christ, où le Christ vient agir, l'Esprit Saint, il vient parachever l'œuvre du Christ. C'est bien ce que disait Jésus à ses apôtres, il faut que je parte pour que l'Esprit Saint accomplisse sa mission. Ils sont profondément complémentaires, y compris dans nos vies. Et c'est ça qui est très souvent si malheureux, si attristant, de voir qu'à des moments, dans notre Église, effectivement, il y a peut-être une confession en Christ qui est faite, des dogmes qui sont accueillis, acceptés, mais que la vie, l'Esprit Saint, la fraîcheur, le renouvellement, le feu, la spontanéité de l'Esprit Saint n'est pas accueillie. Donc, la foi, les dogmes ne peuvent pas fructifier. Ils ne peuvent pas fructifier en nos vies personnelles, en nos vies conjugales, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux que nous rencontrons. Malgré toute notre bonne volonté. Et je pense que nous vivons, d'ailleurs ça a été dit par rapport à Vatican II, nous vivons ce temps fantastique de l'Esprit Saint, de cette nouvelle Pentecôte dont parlait Paul VI, ce qui a été repris par Jean-Paul II, ce qui est repris aujourd'hui par Benoît XVI. Nous vivons effectivement un temps profond de renouvellement de l'Esprit Saint, comme il y en a eu quasiment tous les siècles, tous les deux siècles dans l'histoire de l'Église. Et c'est très beau de vivre cela, mais c'est vrai que beaucoup que nous pouvons rencontrer les uns et les autres ne connaissent pas cette intimité et cette vie dans l'Esprit Saint. Et effectivement, à des moments, ils disent de toute façon, nous les chrétiens, on divorce autant que les autres, on est aussi malheureux que les autres, etc., etc. Et effectivement, après, on tourne dans un relativisme religieux, philosophique, tout ce qu'on veut. Mais quand, effectivement, il y a à la fois une confession de foi et à la fois une expérience de l'accueil de l'Esprit Saint, alors à ce moment-là, nous voyons concrètement nos vies qui se transforment, qui c'est concret, c'est pas quelque chose qui vient se plaquer comme à des moments, j'aime le poisson, ou j'aime la viande, ou j'aime le rose, ou j'aime le rouge, donc effectivement, toute une question de couleur. C'est une question, effectivement, que ça rejoint profondément nos vies, et ça les transforme, l'ensemble de nos vies conjugales. Et c'est ça qui est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que nous avons à accueillir, si nous désirons que nos vies, après c'est notre liberté, mais si nous désirons vraiment que nos vies soient renouvelées, rafraîchies, entendons le dialogue de Nicodème avec Jésus pour notre couple. Si vraiment nous, on se dit, mon sacrement de mariage ne sert à rien, ou il servira à rien, bien sûr on a parfaitement le droit de penser ça. Maintenant, nous avons un trésor fantastique. Est-ce que nous l'avons vraiment, entre guillemets, exploité? Est-ce que nous avons tiré les dividendes? Est-ce que nous avons demandé à Jésus de venir le faire fructifier? Et surtout à l'Esprit Saint de venir faire fructifier en nos vies cette puissance de salut. Mmh.
autre façon de reconnaître l'Esprit Saint dans nos vies, c'est justement la force agissante qu'il a et les fruits que l'Esprit Saint porte en nos vies. Quand on a vraiment vécu un passage de l'Esprit Saint, tu prenais tout à l'heure, Alex, l'exemple du vent, l'exemple du souffle. Il y a beaucoup d'exemples qui sont repris dans la Bible, le feu. Tous ces images veulent nous faire comprendre que quand l'Esprit Saint touche quelque chose, il le transforme. Il y a une transformation. On ne peut pas recevoir le feu et ne pas être transformé. On ne peut pas être touché par le vent et qu'il ne se passe rien. On est ébranlé, on bouge, on sent la force. Et de la même façon, l'Esprit Saint laisse une trace dans nos vies. Et cette trace, elle est très très clairement expliquée dans Saint Paul, dans la lettre aux Romains. C'est le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, la sérénité, la douceur, la charité. Il y en a toute une litanie. Et c'est cette grâce de voir ces fruits de l'Esprit en nos vies qui attestent qu'il est effectivement passé dans nos vies et qu'il est agissant dans nos vies.
Et on peut à ce moment-là transposer peut-être de manière un peu plus précise ces fruits de l'esprit dans la vie conjugale. Ça veut dire que, effectivement, et là c'est pas la théorie, c'est le témoignage de nos vies et de tant de vies qui ont accueilli la plénitude de ce sacrement, de ce salut, de cet Esprit Saint, et on en voit concrètement les fruits concrets dans la vie, là au niveau de l'humanité. C'est un don de la paix du cœur, une plus grande paix l'un avec l'autre, une acceptation mutuelle plus facile, une guérison de blessures, de tensions intérieures qu'on se balade depuis des années et des années, voire maman pour certains mots physiques, mais ça, mettons ça effectivement de côté. C'est un renouvellement de l'amour mutuel. Combien peuvent dire, mes chers, mais je pensais que j'aurais pu aimer à nouveau comme ça mon conjoint, mais je l'aime plus qu'au premier jour. C'est des pardons qu'on avait du mal à donner, qui sont donnés, qui sont reçus. C'est des rancunes qui étaient, et des blessures qui cultivaient une aigreur, etc. Et qui comme sont purifiées, elles existent là, il y a toujours, bien sûr, telle ou telle cicatrice, comme on dit. Bien sûr, c'est toujours là, mais... justement, ce qui suppurait, la blessure qui suppurait pendant des années et des années, eh bien justement, elle devient source de guérison. Avec une plus grande générosité pour l'accueil de la vie, mais combien à un moment avons-nous vu, nous, de couples, qui effectivement ont rencontré Jésus après 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'ont accueilli vraiment dans leur vie. Ils n'avaient plus d'enfants depuis, ils avaient eu 1, 2 ou 3 enfants. Et à ce moment-là, après une période de 5 ou 10 ans, eh bien hop, ils ont accueilli effectivement un enfant, deux enfants, tout de suite une ouverture plus grande à la vie. C'est voilà, il y a toute une dynamique, une libération également de la parole et l'échange. Mais combien de couples, même à les mamans des bons pratiquants, etc., qui sont renouvelés et qui retrouvent une fraîcheur, une spontanéité, un dialogue entre eux, alors que bah, tout est parfait extérieurement, mais finalement c'était deux remparts qui montaient l'un à côté de l'autre. Voilà concrètement ce que l'accueil à la fois du salut et de l'Esprit Saint, le renouvellement auquel Jésus invite Nicodème, qui vraiment accueilli dans une vie couple, que peut vraiment porter des fruits très concrets.
Oui, transformer les couples, et ça se voit. C'est pour ça que à la fin, Jésus le dit ainsi. En est-il de quiconque est né de l'Esprit ? Donc quand on est de l'Esprit et qu'on a expérimenté cette force de l'Esprit Saint dans nos vies, on est tellement heureux de cette joie que le Seigneur met dans nos cœurs qu'on ne peut pas faire autrement qu'en parler. Et ça se voit. Et un couple qui s'aime et qui rayonne de cet amour, mais c'est contagieux. Ça donne envie à tout le monde d'être heureux et de se réjouir. Alors justement, ce qui est important, c'est de comprendre que l'Esprit Saint est capable de transformer une situation quelle qu'elle soit, même si elle est éprouvante, même s'il y a une réalité qui est difficile, là, la présence de l'Esprit apaise, console, fortifie. Il y a des pages magnifiques sur les dons de l'Esprit Saint dans la parole de Dieu. Vous pourrez aller les relire si ça vous donne envie, parce que vraiment, l'Esprit Saint est un fabuleux, accélérateur de bonheur, puisqu'il est capable de nous donner au fond du cœur une paix incroyable.
L'épreuve, c'est pas parce qu'on est chrétien que l'épreuve nous est enlevée. Au contraire, hein, si on écoute la grande Thérèse, au contraire, ça en rajoute un peu. Par contre, ça mène vers un chemin en crescendo, et un bonheur en crescendo, et une plénitude de vie en crescendo. Si nous croyons, si effectivement nous avançons, entre guillemets, avec les deux mains du Père, comme disent nos frères orientaux, avec le Christ dans une main, l'Esprit dans l'autre, alors à ce moment-là, profondément, notre vie, à ce moment-là, va être renouvelée. Et pour finir, hein, pour le parallèle qu'on avait repris, je crois, une autre fois, c'est de dire, n'oubliez pas, Le Seigneur, au travers du sacrement de mariage, a mis un trésor sur notre compte en banque. N'oublions pas la clé d'accès. N'oublions pas le code. C'est la vie dans l'esprit. Alors à ce moment-là, nous pourrons toucher les immenses dividendes de ce trésor de Dieu.
Voilà, à la semaine prochaine. The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace of life.